Chacun sa route, vous êtes en train de gravir une montagne, vous êtes en train de manger, je ne sais pas quoi, de prendre l'apéro entre amis peut-être, en direction de la plage. Racontez-nous ce que vous êtes en train de faire. 01 56 40 68 68. Faites comme Cécile du haut de ses 5 ans.
C'est l'été, la mer, on peut se baigner. Oui, c'est ça.
France Inter, chacun sa route.
C'est un voyage où on se baigne assez peu. Un voyage dans les hautes sphères de la Terre. Ces pics hauts de plusieurs kilomètres, si difficiles d'accès. Le souffle qui s'amenuise, les poumons en feu, la tête qui cogne. C'est aussi un voyage dans le temps. C'est surtout un voyage dans l'espace, vers l'est de l'Europe, la Russie et ses immenses plaines. Notre invité a dirigé et même créé plusieurs alliances françaises dans l'espace post-soviétique. Il a suivi des études de géographie et il est de ceux que l'on qualifie volontiers d'écrivain voyageur. Il a publié plusieurs livres, dont L'hiver aux trousses, Anthracite, Saison du voyage et le dernier, Alpiniste de Staline. Il s'est aussi grimé en Napoléon avec Sylvain Tesson. Il a choisi pour lancer notre conversation de lire ce texte.
Élodie Font, chacun sa route, sur France Inter.
La solitude s'abat chaque fois d'un coup, avec les derniers cris d'adieu, les dernières poignées de main. Une secousse et puis le quai commence à se mouvoir, les amis qui courent derrière les fenêtres jusqu'à ce que le perron s'effondre et les sémaphores qui lèvent les bras. Les entrepôts s'éteignent en scintillant, la ville finit enfin. Ne reste alors que plaine et champ. Et la taïga du soir, par la vitre abaissée, te regarde longuement dans les yeux en se souvenant qu'elle t'a déjà vu quelque part.
Bonjour Cédric Gras.
Bonjour Élodie.
Vous avez choisi cette poésie d'Alexandre Bloch ?
Oui.
Et c'est vous qui l'avez traduite ?
Bah oui, parce que j'ai pas trouvé sa traduction en français. La poésie n'est pas toujours publiée. C'est très difficile de traduire la sonorité, la musique, des mots d'une langue qui n'est pas la nôtre. Alors, quand je trouve pas la traduction, je le fais moi-même.
C'est pratique.
Oui, bah, je ne peux pas le faire avec toutes les langues. Là, je le fais avec le russe, j'en profite. Mais...
c'est vrai, profitons-en. Nous aussi, on en profite. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là ?
Parce qu'il me parle énormément. J'étais tombé dessus en feuilletant un recueil d'Alexandre Bloch, un poète fin 19e, début 20e russe. Et j'ai trouvé que c'était exactement ce que je vivais à chaque fois que je montais dans ces trains qui ressemblent à ce qu'on appelle, nous, le transsibérien.
Ils l'appellent comment, eux ?
Le transsibérien, pour eux, c'est pas un train, c'est une ligne, en fait. Et puis, des trains comme ça, il y en a à travers toute la Russie, en réalité. Mais à chaque fois, c'est l'impression qu'on a, que la solitude, c'est la première phrase de ce première strophe, la solitude s'abat chaque fois d'un coup. C'est vrai que quand on monte dans un train et que le train s'ébranle et qu'on quitte le quai comme ça, même si on a été accompagné par 50 très bons amis, d'un coup on est seul, d'un coup on est sur la route, d'un coup on est en voyage. Et c'est extrêmement brutal en fait, mais j'aime beaucoup. C'est le moment, c'est la frontière qui sépare la sédentarité et puis la société de la solitude du voyage.
Et c'est le train qui procure aussi cette sensation ?
On peut...
Ou est-ce qu'avec un autre moyen de transport, la solitude est la même ?
Avec le train, c'est plus beau, on va dire ça comme ça.
C'est vrai.
Je trouve qu'il y a un grand romantisme dans le voyage en train. Et d'ailleurs, ce texte a été écrit il y a plus d'un siècle. Et finalement, quand on prend le train aujourd'hui en Russie, on pourrait réécrire ces mêmes lignes.
Et c'est un sentiment que vous cherchez, cette solitude, c'est ce quelque chose qui se noue ou qui se dénoue en vous quand vous partez.
Et parfois, c'est un peu brusque, quoi, d'être d'un coup seul sur la route. On se dit, bon, qu'est-ce que je viens encore faire dans cette galère ? Et puis, on entre dans un voyage assez lentement. Dans ces trains russes, le premier réflexe à chaque fois que j'ai pu avoir, c'est de pas tout de suite ouvrir un livre ou pas tout de suite commencer à discuter avec mes voisins, mais plutôt de regarder justement cette taïga qui elle-même te regarde en se disant qu'elle t'a déjà vu quelque part. Et moi aussi, à chaque fois, je me dis, ouais, je l'ai déjà vu quelque part, cette taïga. Et le voyage, c'est un petit peu un monde parallèle qu'on a. C'est une vie parallèle qu'on mène. On revient à chaque fois et donc on a nos amis, nos proches, nos familles. Et en même temps, on part aussi de manière très régulière. Et ça, c'est pas juste une parenthèse, c'est une vraie vie parallèle, en fait. Et ce qui, d'ailleurs, est très frustrant en général pour nos proches.
Oui, parce que c'est assez difficile à communiquer cette vie parallèle, de trouver les mots justes, de trouver les sensations justes et de la partager. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cédric Gras.
Oui, bah, c'est tout l'exercice d'ailleurs de la littérature de voyage. J'ai essayé de s'en expliquer parce que on est presque au tribunal parfois quand on rentre de voyage. Hein, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Quand on fait de la montagne, c'est qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Qu'est-ce que tu as oublié là-haut? Moi, j'ai entendu cette phrase souvent. Puisque d'abord, on associe beaucoup le voyage ou l'alpinisme ou d'autres sports. J'imagine que les marins ont les mêmes genres de réflexion à une activité extrêmement gratuite. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça ne servirait à rien. Voilà. Et puis, il y a aussi presque une vexation parfois chez les gens qu'on quitte pour partir en voyage, de se sentir d'un coup délaissé. Je me souviens souvent de, j'ai pas forcément les paroles en tête là, mais cette chanson de Goldman qui s'appelle Puisque tu pars, je crois.
On a parlé de Là-bas de Goldman au tout début de la semaine avec Olivier Rousteing, mais oui. C'est pas la même.
Non, je ne crois pas. Là, c'est des souvenirs assez lointains, mais dans ce texte, puisque tu pars, où en fait la personne qui chante, qui est censée réciter ce texte, finit par se faire une raison de laisser partir quelqu'un qu'elle aime, et ouais. Même si elle comprend pas pourquoi, ce texte de Goldman est très bien senti.
Et vous, quand vous dites, il y a ce moment, il y a cette parenthèse peut-être entre le moment où vous êtes avec les gens et le moment où vous êtes en voyage et que vous dites, je ne lis pas, je ne parle pas aux gens, il y a un moment comme ça où je rentre dans le voyage, c'est aussi vous laisser justement toutes ces questions, toutes les attentes que peuvent avoir les gens loin.
C'est se retrouver avec soi-même. Lorsqu'on est, c'est pour ça que je pense que le voyage est quelque chose d'éminemment solitaire. Hein. C'est encore un autre sujet, mais on peut voyager en groupe avec un compagnon, une compagne, de voyage tout à fait sympathiquement. Mais les grands mots, le vrai voyage, c'est sans doute d'être seul. Et donc ce moment où le train part ou l'avion décolle, j'en sais rien. C'est le moment où d'un coup, de manière assez brutale, ça y est, vous êtes seul avec vous-même. Et alors il faut se retrouver. En fait, je pense que c'est pas si simple de se retrouver et de se suffire à soi-même. C'est pas si évident que ça quand on est en ville, chez soi, en société. On n'a pas envie en fait d'être face à soi. Et là, ça vous est imposé en fait. Et ça vous est d'autant plus imposé que si vous voyagez dans un pays dont vous ne comprenez pas la langue, par exemple, vous êtes carrément sourd et muet, et donc il n'y a plus que votre monde intérieur, en plus de ce que vos yeux vous apportent, et évidemment la communication qu'on peut avoir par geste, etc. Mais c'est aussi pour ça que moi, je n'aime pas ce voyage contemporain qui est fait d'escapades. Vous savez, un week-end à Londres, un week-end à Prague. D'abord, c'est un petit peu aberrant d'un point de vue écologique. Et puis, en plus, il y a on n'a pas le temps, en fait, de rentrer dans le voyage. On n'a pas le temps de se retrouver. Là, pour le coup, c'est un saut de puce. Je crois qu'un voyage, en fait, moi, je pense qu'il faut une semaine pour rentrer dans le voyage.
Au moins une semaine.
Ouais. Alors, c'est du luxe, hein. Tout le monde ne peut pas faire ça. Les patrons ne donnent pas autant de congés payés, ou en tout cas, pas aussi souvent que ça à leurs employés. Mais dans l'idéal, voilà, ça serait ça.
Mais j'ai lu que quand vous avez commencé à voyager, vous aviez 18 ans, comme plein de gens, vous aviez votre premier passeport. Vous étiez pour le coup parti avec une amie.
Ouais,
donc, à quel moment vous vous êtes dit, en fait, j'ai envie de vivre cette expérience-là seule?
Oui, mais je pense que j'ai regretté d'avoir voyagé avec d'autres. Et en même temps, si j'avais voyagé avec certaines personnes, c'est peut-être que j'avais peur aussi de partir seul. C'est effrayant, la solitude. Et alors, en revanche, une fois qu'on y a goûté, on devient accro. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir ermite pour le reste de sa vie, mais de temps en temps, au cours de son existence, prendre
le temps uniquement pour soi.
Et le marquer par la distance, c'est-à-dire s'éloigner pour mieux marquer sa solitude, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier.
Cédric Gras, vous êtes passionné pour la Russie, on va en parler bien sûr. Pourquoi vous y êtes allé la première fois ? La Russie, d'ailleurs pas que la Russie, tout l'Est de l'Europe.
Bah, un peu par curiosité, moi je voyageais beaucoup, comme on dit, et j'avais pas du tout pris la route de l'Est au départ. J'ai commencé par des destinations beaucoup plus conformes au tropisme classique de l'Occident, c'est-à-dire les Andes, l'Himalaya, des choses un petit peu plus exotiques. Et la Russie, j'ai voulu la voir à un moment pour compléter un petit peu ma connaissance de du globe, mais c'est un des pays que j'ai visité en dernier, en fait. En revanche, celui qui m'a donné envie d'y rester. Sensation que je n'avais pas forcément eue ailleurs.
Alors même c'était que quoi cette sensation, justement, cette émotion
Je crois que c'est un coup de foudre culturel, linguistique, et ça, c'était pas gagné, hein, croyez-moi, quand j'étais à l'école des langues étrangères, c'était pas quelque chose qui m'avait convaincu. J'ai eu un coup de foudre avec cette langue, et puis il y avait en plus, comme cerise sur le gâteau, ces immensités. Vous savez, aujourd'hui, on est 7 milliards, je crois, sur la planète.
On est beaucoup, en tout cas.
On va être rapidement 10 milliards, au moins, voire plus. Et les immensités russes, c'est un luxe incroyable. Elles sont pas très exotiques, hein, parce que ce sont des essences, même des animaux, des latitudes tempérées qu'on peut retrouver en Europe. Mais l'exotisme de la Russie, c'est l'échelle à laquelle ça se passe, c'est son immensité.
Vous parliez de la langue, à quel point elle vous avait touché cette langue russe. Est-ce qu'il y a un mot que vous préférez dans cette langue, ou une sonorité?
Ah, il y a beaucoup de mots que j'aime en russe. Vous voulez un exemple comme ça?
J'aimerais bien. En même temps, si vous me dites n'importe quoi, je vais vous croire. Hein.
C'est vrai, mais j'aurais pu vous lire.
J'ai pas une connaissance du russe extrêmement développée.
Mais je voulais, regardez, la première strophe, je crois de mémoire, c'est «Одиноч собывает сразу». C'est la solitude, ça bat d'un coup. «Одиноч», c'est la solitude. J'aime bien ce mot d'ailleurs. Il y a un mot que j'aime beaucoup en russe qui exprime d'ailleurs une idée qu'on a, pour laquelle on n'a pas forcément, nous, de vocabulaire. C'est l'idée de, non pas d'être amoureux, mais de... C'est un état amoureux, qui peut être éventuellement bref. Ça ne veut pas dire que derrière, vous allez vraiment, en fait... C'est peut-être s'en amourer, ou quelque chose comme s'amouracher. En français, c'est «влюблённость». Ça, ils disent souvent ça, les Russes, c'est assez amusant.
Ah, vous parlez très bien quand même pour savoir dire «s'amouracher».
Non, mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose de culturel. Eux l'emploient très souvent, ce mot. C'est sans doute une réalité aussi de leurs états amoureux, de leurs humeurs sentimentales, peut-être. Je sais pas. Oui, je parle, très bien le russe aujourd'hui. Je vais pas m'en cacher. En tout cas, j'en ai une excellente compréhension et ça, c'est formidable. C'est une aisance en voyage qui est... Formidable.
Vous allez nous emmener avec nous parce qu'on a plein de questions évidemment et plein de paysages et de villes à imaginer avec vous. Mais surtout aussi, on va partir très haut parce que votre livre Alpiniste de Staline nous emmène à plus à 7 km du niveau de la mer. Cédric Gras est notre invité jusqu'à 15h sur France Inter. Benjamin Biolay, extrait de son dernier album Grand Prix, sorti à la fin du mois de juin. Comment est à peine ? Vaste question, sur France Inter bien sûr.
J'ai lâché le téléphone, comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas. J'étais fait comme un rat. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois. Parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faut
peine. La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Écoutez France Inter et jusqu'à 15h nous prenons la route avec l'écrivain Cédric Gras qui nous emmène aujourd'hui en Russie et qui va nous emmener sur les plus hauts sommets, pas les plus hauts sommets mais presque les plus hauts sommets de la Terre. Cédric Gras, vous avez dirigé, je le disais tout à l'heure, plusieurs alliances françaises. C'est aussi comme ça que vous avez mis petit à petit un pas puis un autre en Russie et d'une manière plus générale dans l'Est de l'Europe. Et vous avez dirigé notamment l'alliance française de Vladivostok. On a envie que vous nous y emmeniez. Rien que le nom d'ailleurs, Vladivostok, ça nous emmène dans un imaginaire tout de suite.
Oui, ça fait partie du vocabulaire du rêve. C'est un lexique extrêmement onirique. Ce qui est amusant avec Vladivostok, c'est que moi-même, je n'avais pas très bien conscience de l'endroit où ça se trouvait sur la carte. Ça fait partie des mots qu'on connaît. C'est des noms de villes qu'on a
un peu... Je ne sais pas bien pourquoi on le connaît d'ailleurs.
Moi, j'appelais ça les 3V, quoi. Vancouver, Valparaiso, Vladivostok. Essayez de les placer sur les cartes. Quand on est un peu plus âgé, on sait enfin. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était des mots qui appelaient sans trop savoir où c'était. Vladivostok, je pensais que c'était beaucoup plus au nord, en fait. Et en réalité, c'est à la latitude de la ville de Nice, en France. C'est très, très au sud. Et à la frontière de la Corée du Nord, juste en face du Japon. Alors il y fait assez froid, puisque là, contrairement à l'Europe, il n'y a pas de Gulf Stream, il n'y a pas de courant chaud, c'est un courant froid qui descend du détroit de Bering. Mais c'est pas non plus la ville polaire qu'on imagine, et notamment l'été, on a un soleil abondant, on a même des moussons qui remontent d'Asie, de Corée, il y a même des requins parfois qui apparaissent dans la baie de Vladivostok. C'est assez rare, mais enfin c'est arrivé suffisamment souvent pour que des gens se fassent croquer un bras. Et oui, c'est assez inattendu pour Vladivostok. Alors quand j'ai découvert cette ville, quand je suis venu m'y installer, c'est vrai que j'ai commencé à tenir un peu des chroniques. Il n'y avait pas de but à l'époque. Plus tard, j'ai réuni ça dans un livre qui a été mon premier. Mais il s'agissait simplement de pallier les défauts de la mémoire, quoi. De se dire que c'était un endroit assez inhabituel. Vous êtes en Russie. La ville, globalement, est peuplée de Slaves, ethniquement. Et en même temps, on allait passer nos week-ends en Chine. On prenait le bateau pour la Corée du Sud. On allait au Japon. Et tout ça sur 2-3 jours. Les Russes font ça couramment. Ils vont faire leurs courses, en fait. Ils sont à 9000 km de Moscou.
C'est des frontaliers, quoi.
Ben c'est des frontaliers, exactement. Ouais. Et c'est une position presque insulaire, en fait. C'est un petit morceau d'Europe. Pour moi, la Russie, ça reste quand même l'Europe. En Asie. À côté, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Amour. Enfin, à côté, à l'échelle russe, hein, il faut faire 800 km vers le nord. le fleuve Amour qui sur 4000 km marque la frontière entre la Russie et la Chine. Et là, il y a des endroits incroyables où vous êtes sur la rive russe et juste en face, il y a les Chinois. Et quand on est un peu en amont du fleuve, c'est pas si large que ça et on voit très bien les Chinois. Et c'est assez étonnant. Ce sont des endroits où la géographie est extrêmement brutale, en fait. D'un coup, on bascule d'Orient en Occident, d'Occident en Orient. Il n'y a pas tout ce dégradé qu'il peut y avoir lorsque vous faites un voyage comme on faisait dans les années 60, la route des Indes, vous savez, au parti d'Europe, c'est les Balkans, la Turquie. Puis l'Orient apparaissait progressivement, l'Iran, le monde perse, l'Afghanistan, vous arrivez en Inde. Non, là-bas, vous passez en 100 mètres, boum.
Vous aimez décidément passer d'une ambiance à une autre.
C'est une rupture géographique étonnante, c'est que ça existe, vous voyez, dans la géographie.
Ouais, c'est quelque chose qui vous touche en tout cas apparemment, puisque vous nous parliez déjà tout à l'heure de rupture dans le temps, là c'est des ruptures géographiques.
Non, moi j'aime bien quand ça se passe doucement aussi, c'est le hasard de la conversation.
C'est vous qui nous emmenez. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés à Vladivostok ?
Non, à l'époque il n'y en avait pas, ouais. Il y avait moi.
Donc vous ne pouviez pas être entre expatriés, c'est pas plus mal.
Non, alors ça c'était fantastique, mais avant Vladivostok, moi j'avais fini mes études à Omsk, en Sibérie centrale, et là j'étais vraiment tranquille, tout seul. C'était la condition sine qua non pour apprendre et pratiquer et mémoriser une langue aussi complexe que le russe, parce que lorsque vous êtes entouré de vos compatriotes, ou même si vous êtes dans une grande ville comme Moscou, Saint-Pétersbourg, dans lesquelles la jeunesse russe parle assez couramment maintenant l'anglais, voire le français d'ailleurs, ça arrive, bah, vous êtes empêché évidemment de faire cet effort, parce qu'on est tous très feignants. Si on n'est pas obligé d'apprendre la langue, on ne le fera pas.
Vladivostok, c'est entouré de montagnes ou pas du tout?
Oui, alors au nord, il y a des petites montagnes.
Des petites montagnes.
Qui s'appellent la chaîne de Sikretéaline, qui sont connues. Je pense que certains de vos auditrices et auditeurs se souviennent d'un film qui s'appelle Dersu Zala, qui narre un peu les aventures de l'équivalent du dernier des Mohicans, mais version Far East sibérien, ouais. Qui a eu un grand succès à l'époque. Ça se passe dans ces montagnes au nord de Vladivostok.
Vous vous êtes intéressé, Cédric Gras, dans votre dernier livre, Alpiniste de Staline, que je tiens dans mes mains. Vous vous êtes intéressé à des montagnes un peu plus hautes.
Oui, là on parle de très haute altitude.
De très haute altitude, puisqu'on va jusqu'à 7000 mètres, ce qui est déjà énorme, enfin ce qui est complètement dingue. Et j'avais envie qu'on en parle avec vous, au-delà du livre, parce que l'alpinisme, la montagne en général, c'est quelque chose qui vous touche depuis très longtemps. Vous êtes retourné sur les traces de vos deux héros, on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, deux frères, deux alpinistes extrêmement talentueux du XXe siècle en Russie, et ils ont escaladé en partie le pic Lénine, qui s'appelle toujours comme ça du côté russe, mais qui ne s'appelle plus comme ça de l'autre côté, c'est ça?
Oui, bah parce que tout ça s'inscrit dans une géographie post-soviétique, et les États souverains aujourd'hui, qui constituaient à l'époque les républiques socialistes soviétiques d'Asie centrale, ont un peu décidé de remettre la topographie, la toponymie à leur sauce culturelle, je veux dire. Donc, ils réécrivent d'ailleurs en partie leur histoire, et certains des hauts sommets qui portaient les noms soviétiques ont été renommés. Ouais.
Et vous racontez que c'est un pic relativement accessible, donc très prisé des touristes. Vous décrivez notamment des voyageurs qui ont ficelé sur leur sac à dos des enceintes qui crachent des hits moscovites dans le désert blanc. Et ma question...
C'est un peu comme ça, effectivement.
On a cherché des hits moscovites. Et ma question, Cédric Gras, c'est pourquoi les gens font ça?
Alors, vous avez dit, les touristes, c'est pas tout à fait des touristes. Enfin,
des touristes, j'imaginais que c'était un tour.
C'est quand même des gens qui ont une certaine forme physique et un peu d'expérience alpinistique. Mais c'est vrai que le pic Lénine est aujourd'hui... Allez, on va dire le 7000 mètres le plus facile du globe. Et en plus, on peut y aller en juillet, août, ce qui n'est pas le cas des sommets himalayens à cause du régime des moussons. Donc ça correspond avec la période des vacances et ça commence à attirer énormément de touristes, peut-être, en quête d'exploit, c'est-à-dire de monter à 7000 mètres sans trop avoir à maîtriser ou à surmonter des obstacles techniques. Alors, ça reste quand même un sommet de 7000 mètres. La dernière partie, la dernière journée est extrêmement froide, voire glaciale. Beaucoup de gens ont la cornée gelée ou des bouts de doigts, des extrémités du pied qui noircissent un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Le taux d'échec est assez important aussi. Mais c'est effectivement le 7000 mètres le plus facile. Et alors, les hits moscovites, là, j'ai vu pas mal de Russes qui pour...
Mais moi, je comprends pas les gens qui font
se dire que c'est un peu
sur
long.
Une montagne, à la plage, dans un parc, une forêt, et qui mettent de la musique à fond.
Ils font pas ça au sommet. Hein. C'est là vraiment pour monter au camp 1, au camp 2. Y en a qui font ça en musique. Ouais. Après, l'effort est tellement exigeant que tout le monde est concentré. Je pense que les gens sont même plus capables d'écouter de la musique. Ils écoutent leur souffrance.
Comment vous vous êtes préparé à ça, même si vous faites de l'alpinisme depuis longtemps déjà?
Je ne suis pas préparé. D'ailleurs, moi, j'ai pas été au sommet là sur le pic Lénine, et j'aurais voulu y aller bien sûr si ça avait été plus possible. Mais j'étais là-bas pour mon enquête, pour ce livre. Hein. Donc, j'avais été avant le pic Lénine au camp de base de deux autres montagnes, le Khan Tengri et le pic Pabieda, qui est deux autres 7000 de ce qu'on appelle les monts célestes, qu'on appelle aussi les Tian Shan. Pour essayer de d'abord capter un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, voir ce que c'était devenu, éventuellement rencontrer des gens qui avaient connu mes deux héros, les frères Abalakov. Et puis j'avais terminé effectivement au pic Lénine, ou d'ailleurs au camp 1, au premier camp, j'ai retrouvé quelqu'un qui avait croisé un moment, il était dit Abalakov. C'était ça qui m'intéressait à ce moment-là. Je pense que je retournerai là-bas, oui, pour tenter plus précisément l'ascension?
Parce que plus on monte, et plus évidemment le mal de l'altitude. Je ne sais pas s'il y a un mot pour le mal de l'altitude en russe.
Si, on appelle ça le mal de l'altitude. Ah, en russe,
ouais.
Il n'y a pas de mot spécifique, non, on traduit comme ça.
Le mal de l'altitude.
Ouais.
Plus on monte et plus il s'infiltre dans notre corps. Vous qui l'avez ressenti, qu'est-ce que ça fait quand on atteint des...
En fait, le mal de l'altitude, c'est une expression générique. En fait, il y a des mots d'altitude. Vous avez plusieurs affections possibles. Vous pouvez avoir un œdème du cerveau, des poumons, ce qui est déjà deux choses très différentes. Après, les mots les plus classiques et surtout les moins dangereux, c'est des céphalées, enfin des maux de tête qui passent pas. Vous pouvez avoir la nausée. Il y a plein de choses, en fait. Votre corps va réagir à la baisse de la pression, au manque d'oxygène, à l'effort aussi. C'est pas la moindre des choses, de manière diverse. Vous pouvez aussi avoir des problèmes cardiaques en altitude. Enfin, tout est possible.
C'est très impressionnant d'ailleurs.
Moi, j'ai jamais eu tout ça. Enfin, des céphalées, oui, mais heureusement, j'ai jamais eu plus.
Oui, c'est ce qu'on vous souhaite, mais c'est quand même très impressionnant ce que l'altitude peut faire à notre cerveau, puisque quand bien même on ne va pas jusqu'à avoir un œdème, on a l'impression. Enfin, moi, je suis jamais montée aussi haut, mais on a l'impression qu'il se passe quelque chose dans notre cerveau quand même.
En fait, ce qui est très intéressant, et c'est moi ce qui me passionne avec la haute altitude, c'est que. On atteint les limites de la couche assez mince, en fait, finalement, qui est favorable à la vie, et notamment à la vie humaine. On en sort assez vite, quoi. C'est-à-dire que dès que vous passez au-dessus de 5000 mètres, il n'y a plus personne qui habite. Et déjà, au-dessus de 4000 mètres, oui, il y a quelques Tibétains et dans les Andes, quelques autochtones qui se sont, avec le temps, acclimatés, adaptés. Mais on atteint les limites de cette planète, la Terre, qu'on appelle souvent une planète habitable. Mais elle n'est pas habitable partout. Un autre exemple qui n'est concerne pas l'altitude, c'est l'Antarctique, par exemple. Il n'y a jamais eu de civilisation ou d'homme en Antarctique. Parce que c'est pas fait pour la vie. Il n'y a même pas de mammifères qui habitent en Antarctique. Ou alors, la nourriture est dans l'océan glacial, elle n'est pas sur le continent Antarctique. Et bon, la montagne, c'est un petit peu pareil. Donc, moi, j'aime dire que le vrai bout du monde, c'est pas le Cap Horn, c'est pas les Finistères, lorsque la Terre est ronde. Donc, la seule frontière qu'on a avec quelque chose, avec l'espace, en l'occurrence, en fait, c'est les hautes couches de l'atmosphère, c'est la troposphère. C'est l'altitude d'un avion de ligne, c'est l'Everest, quoi. Voilà, c'est ça le bout du monde, en fait. C'est ça le vrai bout du globe. C'est là que finit notre planète. Et plus on avance vers cette frontière, et moins les conditions sont favorables à la vie. Et l'homme n'y fait que des incursions. L'alpinisme, l'Himalayisme, si vous voulez, ce n'est que faire une incursion très rapide dans ces hautes couches.
Et c'est ça qui vous fait battre le cœur, entre autres. Cédric Gras, je vous emmène un peu plus au sud, à La Réunion, avec du Maloya. Elle s'appelle Maya Kamati et elle chante Ansam sur France Inter. Chacun sa route, c'est jusqu'à 15h.
En les pieds bois noirs.
Maya Kamati sur France Inter. Tous les jours, dans Chacun sa route, un peu après 14h30, on est transporté dans votre ailleurs à vous. Un moment que vous avez vécu, qui vous a touché, ému, bouleversé, n'hésitez pas à nous le raconter. Mon compte sur Twitter, HelloFond, elodie.fond@radiofrance.com, un mail. Et puis, sinon, vous avez le répondeur 01 56 40 68 68. Aujourd'hui, Cédric Gras, on va partir avec Morgane au Timor oriental pour une aventure, vous allez voir, un peu particulière.
C'est une histoire qui se passe en pente au Timor-Leste. 5 jours, seul, sans eau, sur le flanc d'une montagne sacrée qui s'appelle le Manu Coco. C'est un très joli pic de 1000 mètres, considéré ici comme le paradis. Pas un paradis, mais bien le paradis. Sur ces hauteurs, c'est une jungle tropicale. Accidentée ou escarpée, ça suffit vraiment pas pour décrire ces dénivelés qui sont vraiment malicieux et très très habités. Il y avait comme une joute dans mon esprit. Les habitants, les ronces, les araignées, ma bouteille d'eau vide, le soleil qui commençait à tomber. Tout me disait d'abandonner l'ascension, de la remettre plus tard. Ce qui est la règle numéro 1 en montagne. Et de l'autre côté, dans l'autre partie de ma tête, j'étais venu chercher par la marche, par l'effort, une réponse à des questions de vie, de choix à faire. Ça faisait des mois que je m'entraînais gentiment, que je mangeais hyper bien. J'étais vraiment super en forme. Et j'ai toujours adoré grimper à vue avec le sommet comme unique repère. Pas de carte, pas de boussole, pas de téléphone, de GPS pour vous embrouiller. Tout à l'instinct, dans un corps à corps créatif. Voilà, ceux qui pratiquent la méditation appelleraient ça la pleine conscience. Voilà, moi, je pense que je fais du trekking de pleine conscience. Bon, parfois, il arrive des petits accidents. La chute de 5 à 6 mètres, peut-être plus, que les lois de la physique voudraient inscrire dans un temps plutôt court, reste vraiment pour moi un souvenir d'une incroyable complexité, avec des phases de flottement, des sensations plutôt longues, très précises, et chaudes plus que douloureuses. Le vrai déclic, le changement de point de vue fondateur qui, je crois, m'a vraiment permis de survivre, il s'est opéré au second réveil. J'étais là la nuit, le corps en vrac, tout cassé au pied d'une falaise sous la lune, et j'étais sûr que j'allais mourir. Voilà. Et étrangement, en lecteur nourri de récits, de toutes sortes d'aventures, de périples, j'ai eu une forme de joie, de curiosité, d'excitation à l'idée de pouvoir assister à la mort d'un homme en montagne. Passer les urgences en ayant réussi au petit matin à ramper jusqu'à un coin d'ombre, il y a vraiment eu un sentiment nouveau, peut-être encore plus fort, qui a contribué à me tenir en vie et qui me porte encore aujourd'hui. Disons que c'est une lecture constante des éléments de la nature et plus simplement un ressenti beaucoup plus fin, une satisfaction permanente liée à la nature. Voilà. Et quand après avoir dormi presque 3 jours, mangé des minuscules poignées de plusieurs plantes, bu mon urine aussi pour apaiser la soif, j'ai suivi un groupe de chèvres qui était venu me rendre visite au fond de mon ravin, et elle connaissait évidemment le chemin pour me sortir de là.
Morgane a écrit sa chute et son histoire, et on vous a mis d'ailleurs déjà le lien vers son récit sur la page de l'émission. Vous, Cédric Gras, est-ce que vous vous êtes déjà blessé en voyage ?
Oui, là, c'est en montagne en fait.
Ah, en montagne, vous êtes...
Chute un jour de... Alors, 80 mètres, mais j'étais encordé, c'est toute la différence. Donc, aujourd'hui, on a des cordes assez élastiques qui amortissent les chocs. Je m'en suis tiré avec une cheville fracassée qui a nécessité un sauvetage par hélicoptère assez long. C'était au Karakorum, à la frontière de l'Inde, dans la zone en guerre, en plus du Cachemire. Bon, enfin, ça serait assez... dilatoire là de s'étendre sur cette anecdote.
Ah oui, c'est fou, je savais pas que vous étiez tombé vous aussi. Décidément la montagne.
Oui, bah c'est ce que disait Morgane, je crois, l'intervenant, les lois de la physique. Ça c'est pour tout le monde.
Quand vous partez, vous fixez des limites physiques, psychologiques, justement, puisqu'on parle de chute, on parlait tout à l'heure d'aller très très haut.
Moi, j'ai jamais été dans une démarche d'exploit. J'ai envie de faire des choses un petit peu hors normes, mais en fonction de mes moyens physiques et mentaux, hein, parce que c'est aussi beaucoup dans la tête. Alors, je trouve que je suis assez sportif et que à certains, ça peut paraître impressionnant, mais la prise de risque est relative vraiment à ses propres capacités. On peut pas vraiment comprendre, je pense. La prise de risque d'un autre, parce que c'est quelque chose qu'il faut voir avec soi-même. Là, ce que disait Morgane, ça me rappelait, il y a un an ou 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un jeune français qui avait été porté disparu en Italie. Il était en train de faire une randonnée le long de la côte, je ne sais plus dans quelle région. On l'avait retrouvé après plusieurs jours, et puis tout le monde... décédé malheureusement, et tout le monde était tombé, lui était tombé dessus un peu post-mortem en disant mais il faut pas partir tout seul, c'est une prise de risque inutile, il l'a bien mérité, enfin je sais pas si quelqu'un a dit ça mais presque. Et moi je supporte pas en fait ces commentaires. Si on n'a pas le droit de partir tout seul et bien sûr de prendre un risque, restons tous chez nous confinés avec des masques sur la tête, puis arrêtons de vivre le risque zéro. C'est pas aux autres de juger. Si vous avez envie de flirter avec la mort, flirter avec la mort, pourquoi pas.
Vous, parfois, en voyage, vous avez été jugé parce que j'ai lu, alors je sais pas si c'est vrai parce que je l'ai lu qu'une fois, que vous avez été arrêté à un moment en Chine pour espionnage et puis après vous avez été libéré.
Oui, bah, ils ont l'espionnite facile, les Chinois, vous savez. On avait été arrêté à l'époque parce qu'on était au Tibet. Sans autorisation, vous savez que le Tibet est sous contrôle chinois, il fait partie du territoire chinois officiellement, et ils y imposent leurs règles, ils n'aiment pas trop que les étrangers viennent en réalité, il faut demander un permis intérieur qu'on n'avait pas. On avait contourné les checkpoints, je me souviens, on n'avait pas fait un si grand détour que ça, enfin par la montagne de derrière, quoi. Et puis, on avait fini par se faire arrêter. On marchait dans les montagnes, tant qu'on est dans les montagnes, sur les plateaux, là vous rencontrez aucun représentant de l'autorité, vous rencontrez des Tibétains ou des Chinois, mais qui n'ont absolument rien à faire de vous. Tout se passe bien, contact humain, chaleureux, hospitalité, etc. Et puis dès que vous tombez sur un uniforme, en général ça se passe en ville, en général ça se passe au moment où vous vous rapprochez d'une route, au moment où vous vous rapprochez de l'asphalte, là vous vous rapprochez des autorités, et on s'était fait arrêter assez évidemment, hein, parce que les Occidentaux ont du mal quand même à se faire passer pour des peuplades asiatiques, donc...
En effet, puisque vous parlez de force de l'ordre dans votre livre, pour votre livre Alpiniste de Staline, c'est aussi un voyage dans le temps, et vous êtes allé dans les archives du KGB. J'ai trouvé ça génial. Et on va se mettre dans une ambiance KGB. Exactement. À quoi ça ressemble ? Les archives du KGB. Rien que de le dire, c'est un peu comme Vladivostok tout à l'heure, on est déjà parti. Hein.
Alors pour être plus précis, c'est pas les archives du KGB, mais les archives du NKVD.
NKVD.
Qui est l'ancêtre du KGB.
Oui.
Moi, je simplifie un peu parce qu'on n'a plus en mémoire en France aujourd'hui l'acronyme NKVD. Mais sous Staline, c'était le NKVD. Le KGB, c'est apparu après.
Ouais.
C'est comme ça qu'on a renommé le NKVD. Donc vous rentrez.
Mais c'est le même endroit ou pas?
Oui, les archives maintenant, elles sont dispersées. Il y en a qui sont encore au siège historique des services russes, qui est celui du KGB aujourd'hui, qui s'appelle la Loubianka. Moi, j'ai retrouvé le dossier des frères Abalakov, celui que je cherchais, dans les archives fédérales de la Fédération de Russie. Mais ce sont les documents du NKVD de l'époque, oui, qui sont conservés. Alors, c'est un bâtiment, comme il y en a des milliers à Moscou, tout à fait neutre d'un point de vue architectural. Vous rentrez dans quelque chose d'assez classique, simplement. En fait, c'est ce qui crée une atmosphère tout à fait particulière. C'est que les milliers de dossiers qui sont entreposés sur les étagères, vous le savez pertinemment, sont ceux de gens qui ont été déportés ou fusillés. Voilà. Et ça, rien que de le savoir, en fait, en passant devant tous ces numéros, parce que vous voyez pas les noms, ça fait un petit coup au cœur. C'est toute une tragédie qui est archivée, ordonnée, numérotée. Vous passez entre ces rayonnages, et à un moment, vous dites, voilà, vous allez vous mettre à la petite table qui est ici, on vous apporte un dossier qui est celui que vous avez demandé, parce qu'on n'obtient pas un accès aux archives dans le sens où vous pourriez fouiller tout ce qu'il y a sur les rayonnages. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous faites une demande précise pour un dossier précis à une date précise, et là, on vous apporte le dossier et vous avez,
ceci dit, je ne crois pas qu'en France, on puisse fouiller toutes les archives non plus.
Non, je ne pense pas, mais je voulais dire que ce n'est pas comme dans une bibliothèque. Et voilà, donc vous asseyez à la table qu'on vous désigne, vous avez votre dossier, et là, c'est parti.
Et il y a la lumière du jour ou pas?
Oui, moi, je m'étais mis à côté d'une petite fenêtre, on m'avait proposé de me mettre à côté d'une petite fenêtre, j'avais la clarté du jour. Voilà, c'était amplement suffisant. De toute façon, j'ai aucune mémoire de cette journée. Elle a passé j'ai pas mangé. J'ai assis à un moment, j'ai rendu compte que j'avais envie d'aller aux toilettes. Il faut escorter jusqu'aux toilettes. Et après, je suis revenu à ma table et puis j'ai repris le dossier. J'avais qu'une envie, c'était de tirer un maximum d'informations de ce dossier.
Oui, une journée, c'est vrai que faut en emmagasiner le plus possible. Cédric Gras, on change d'ambiance. Vous étiez en Ukraine au moment de la guerre du Donbass.
Oui.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être à l'endroit, à un moment T où il se passe quelque chose comme ça, une guerre?
Ah oui, alors ça c'est quelque chose d'exceptionnel pour ma génération. Moi, je suis né en 82, c'est pas de service militaire, une Europe totalement pacifiée, la construction européenne. Et de se retrouver, comme d'autres ont pu se retrouver au Kosovo, par exemple, au milieu d'un conflit européen, même si à certains de nos compatriotes, ça semble toujours très loin, l'Est de l'Europe, c'est malgré tout très très proche en réalité. Là, ça a été l'Ukraine, effectivement, un hasard de la vie. Moi, j'ai vécu au Donbass, je dirigeais l'Alliance française depuis 2010, donc presque 4 ans avant, je connaissais très bien cette région. Et sur la fin de mon contrat là-bas, la guerre arrive. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, la guerre en soi, c'est pas très intéressant. Ça, on s'en doutait. Et je peux même dire que ça m'a pas impressionné plus que ça. En revanche, ce qui m'a fasciné, c'est comment une guerre commence, en fait. Et c'était d'autant plus fascinant et passionnant pour moi que j'avais vécu plusieurs années avant dans cette région. Je la connaissais. Et que je ne l'avais absolument pas vu venir, mais je n'étais pas le seul d'ailleurs. Et là,
donc c'est passionnant de ne pas voir arriver la guerre.
Oui, enfin de voir tout s'effondrer du jour au lendemain. En fait, il y a un soir, ça ne se passe pas de... Enfin, c'est sur le temps long quand même, le début d'une guerre. C'est-à-dire que tout ne bascule pas d'un coup comme ça. Mais à un moment, vous sentez la bascule, quoi. Jusque-là, on allait vers la guerre, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Mais on n'avait pas encore franchi le point de non-retour. Puis un soir où vous comprenez qu'en fait, c'est fini. Et que les lois ne sont que des bouts de papier. Et qu'en fait, les gens ont décidé de plus les respecter, donc du coup, c'est fini. C'est-à-dire que même les policiers qui sont censés, les forces de l'ordre qui étaient censées les faire respecter, eh bien, elles ont déserté, ou elles ont changé de camp, ou elles ont changé d'avis. Du coup, il n'y a plus personne pour faire respecter les lois. Les lois, c'est du papier, donc s'il n'y a personne pour les incarner et pour les défendre, elles n'existent pas. C'est extrêmement fragile, en fait, et on se rend compte de la fragilité même du concept de frontière, en fait. Voilà, j'ai assisté à ça. Et j'en ai tiré un livre qui s'appelle Anthracite, qui m'a servi un peu de catharsis, parce que c'est quand même pas évident de se retrouver là-dedans, même si moi j'étais ressortissant d'un pays tiers qui n'était pas partie prenante du conflit. Mais bon, le Donbass, on peut en parler longtemps. ça a été présenté chez nous comme quelque chose d'extrêmement identitaire, un jeu géopolitique, et tout le monde a un petit peu, moi c'est ce que je regrette, tout le monde a un petit peu passé, mais c'est parce que c'est par méconnaissance aussi les fondamentaux, qui sont des fondamentaux en fait économiques de prospérité. C'est comme les Hauts-de-France, comme on les appelle aujourd'hui, au moment où il faut une reconversion des territoires parce que la mine, la métallurgie, ça marche plus. C'est ce qui s'est passé au Donbass, il y avait un terreau pour la guerre. Mais si ils avaient été dans une situation de prospérité économique, on n'aurait sans doute pas eu de guerre.
Cédric Gras, vous restez avec nous. Rosalia et Travis Scott sur France Inter, Tekken.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
Teke, teke, teke.
Ni un amigo nuevo ni una haría.
Teke.
Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume en la cara, gafas no es. Esto no dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como pica. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita.
Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
Más te vale no romper la muerta.
Teke, 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 teke.
Ni un amigo nuevo ni una haría.
Vous écoutez France Inter, chacun sa route. Cédric Gras, est-ce que pour vous, voyager, c'est fuir ?
Oh non, non, non.
Non ?
Ça, c'est des choses... De toute façon, tout le monde fuit en permanence, mais on peut fuir en écoutant de la musique toute la journée, en se plongeant dans des jeux vidéo. Il y a mille manières de fuir. Non, non, voyager, c'est l'amour de la route. Voyager, c'est l'éloge de la curiosité. Et voyager, c'est redécouvrir... son monde, celui de sa génération, de son époque, c'est...
Et c'est déjà pas simple. Vous me le disiez tout à l'heure quand on écoutait le premier titre, tout à l'heure, vous me disiez c'est pas simple de voyager aujourd'hui.
Non, bah ouais, moi j'aurais préféré faire ça avant. Aujourd'hui, tout le monde voyage. Oui, je vous disais, voyager aujourd'hui, c'est comme faire de la photographie, tout le monde en fait, quoi. On croit en faire. Tout le monde a le droit de le faire, évidemment, mais je crois que les gens ont été habitués à des facilités de voyage qui desservent un peu le sujet.
Elle, pour le coup, elle va vous fasciner. Vous allez voir, Cédric Gras, j'ai une mission pour vous. Chaque jour, pour terminer chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est la même toute la semaine et on s'intéresse, cette semaine, à Nelly Bly. Nous avons depuis le début de la semaine parlé de son enfance et de son premier reportage retentissant, enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et Cédric Gras, vous êtes, pour les prochaines minutes, si vous le voulez bien, Nelly Bly. Deux ans plus tard, Nelly Bly se lance un nouveau défi, toujours pour le New York World. Faire le tour du monde en moins de 80 jours, 17 ans après le héros de Jules Verne. Un tour du monde sans guide ni escorte. À l'origine, la rumeur dit qu'elle avait surtout très envie de vacances. Après tout, pourquoi ne pas s'en faire offrir par son employeur ? Mais il fallait ruser, trouver une raison valable pour que le journal lui offre ce voyage. Elle est la première femme à se lancer dans cette expédition en solitaire. Un homme, dans la rédaction, lui dit « Mais vous n'y arriverez jamais !» Vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagez seule, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert de débattre. Seul un homme peut relever ce défi. Le défi est donc double, être la première femme, mais aussi établir un record de rapidité. À l'époque, à la fin des années 1800, les transports prennent de l'ampleur, il y a de plus en plus de lignes de chemin de fer, on en parlait tout à l'heure, plus de liaisons maritimes aussi. Nous sommes le 14 novembre 1889.
Quand j'eus le lendemain la confirmation de mon voyage, un sentiment de terreur s'abattit sur moi.
Nelly Bly, pour partir, a un seul bagage et une seule robe, une tenue de fin drap bleu d'un tartan en poil de chameau.
Ne vous inquiétez pas, avais-je dit à mes proches alors, alors même que j'étais incapable d'articuler les deux odieuses syllabes du mot adieu. Je pars en vacances et ce sera l'aventure la plus agréable qui soit.
Mais bien sûr, il y a du stress et un mal de mer persistant pendant plusieurs jours. Mais surtout, Nelly Bly est d'une humeur radieuse. À chaque étape de son parcours, elle envoie un télégramme. Dans le journal, à New York, le récit est savamment orchestré comme un feuilleton dont on a du mal à décrocher. Les lecteurs la suivent en train de manger dans les gares, dormir dans les trains. Elle prend tout de même le temps de s'arrêter à Amiens et pour cause. Jules Verne, en personne, y habite. Il lui apporte un soutien enthousiaste et aussi une bonne pume, avec une petite pointe de doute. Si vous le faites en 79 jours, je vous applaudirai des deux mains.
Je compris alors qu'il doutait que je puisse faire ce voyage en 75 jours comme je m'y étais engagé.
Ses récits sont souvent moqueurs. Quand elle arrive en Asie, elle écrit
« Les Chinois ne sont pas encourageants. Ils prennent un air abattu comme s'ils portaient la misère du monde sur leurs épaules. »
Elle se moque aussi d'elle-même, bien sûr. Pour apporter encore un peu de piquant, un journal envoie une concurrente faire le même trajet. Mais Nelly Bly est la plus rapide.
Je me sentais perdu. Ma tête tournait et mon cœur donnait l'impression de vouloir éclater. Seulement 75 jours. Oui, mais il me semblait que c'était une éternité, que le monde avait perdu sa rondeur pour prendre l'allure d'une distance sans fin et que, bon, je ne reviendrai jamais.
Son périple la secoue, littéralement. Elle doit par exemple faire face à une violente tempête en bateau. Et puis arrive le 25 janvier 1890.
Mon aventure avait été si formidable que je redoutais presque qu'elle se terminât.
Nelly Bly boucle son périple en 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes. Un record. Une exploration autant qu'un signe d'émancipation des femmes.
Mes compatriotes étaient très fiers que ce fût l'une des leurs qui ait relevé pareil défi. Quant à moi, je me félicitais que ce fût une femme qui ait réalisé cet exploit.
La suite et la fin de ces aventures qui n'ont pas fini d'être rocambolesques, demain et ensuite en intégralité en podcast. Cédric Gras, cette émission s'appelle « Chacun sa route ». Vous qui êtes né en 1982, ça doit vous rappeler une chanson, j'imagine. « Chacun sa route, chacun son chemin ».
Oui.
Quel message passer à votre voisin?
Je crois qu'il ne faut pas se laisser avoir par ce qu'on dit en ce moment, là, de ne plus voyager pour des considérations écologiques comme pour des considérations qui voudraient que tout a été fait, vu, refait. Encore une fois, le monde change à une vitesse incroyable. Et l'exploration est une chose qu'il faut sans cesse renouveler. En fait, il faut mettre à jour les connaissances qu'on a du monde, d'un monde qui change en permanence. Et chaque génération doit faire ce travail. Le voyage, c'est essentiel. Moi, j'ai très peur qu'on ait une relation, une perception de l'extérieur qui soit extrêmement maintenant virtuelle, numérique. Dans l'expérience physique des choses et de l'autre, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut voyager.
Merci beaucoup, Cédric Gras, d'avoir été notre invité. Chacun sa route, épisode 14. Revenez demain. Demain, nous serons avec Jackie Schwartzmann qui nous racontera son marathon en Corée du Nord. Et on s'intéressera à partir de 13h20 au lien entre notre cerveau et notre genre. Merci à Céline Dubois, Louise Cognard, Thomas Somaro, Vera Louderide et Claire-Sophie Collet qui ont préparé cette émission. C'est avec vous, auditeurs, que l'on se quitte. Tous les jours, un souvenir musical lié au voyage. Faites comme Célia aujourd'hui.
C'est sur ce son que j'ai passé plusieurs étés, à Palerme, au soleil, au sein d'une voiture avec une de mes meilleures amies. Et cette musique nous permettait justement de profiter de chaque instant, de nous montrer que les vacances, certes, ce n'était que 2 mois dans l'année, mais que ces 2 mois, on en profitait encore plus à fond. Donc cette chanson, c'est « Molto Calmo » de Nefa. Et elle restera comme un souvenir qui ne fait que se raviver.
01 56 40 68 68 pour nous raconter vos souvenirs.